Chapitre 13. Franks décelait des reproches dans le regard fixe de Surya. Il avait perdu toute notion du temps. Il lui semblait parfois être arrivé la veille dans la champignonnière, et parfois il avait l'impression d'y être installé depuis des mois. Sidérante, la vitesse à laquelle l'être humain s'habitue à ses nouvelles conditions de vie, à son nouvel environnement. Oublié déjà, la marche exténuante dans le froid perpétuel et les averses de cendres. Oublié, les éruptions et les gigantesques failles ouvertes par les secousses telluriques. Oublié, la peur permanente de périr de faim, de soif ou d'épuisement. Oublié, le feu de Dieu, Alice, les enfants, Jim le parasite. Comme s'ils appartenaient à un monde parallèle ou qu'ils n'avaient jamais existé. Son noyau familial s'effaçait de sa mémoire avec une rapidité déconcertante. Sans doute parce qu'il l'avait davantage forgé et maintenu avec le mental qu'avec le cœur. Franks appartenait à la catégorie des êtres malhabiles avec les sentiments. Comme Alice n'était pas beaucoup plus douée que lui en ce domaine, ils avaient conclu un pacte tacite basé sur l'entente raisonnable, cordiale, espérant que l'arrivée des enfants parviendrait à nourrir à l'intérieur ce qu'ils avaient esquissé par l'extérieur. Lorsqu'il avait vu les nouveau-nés sortir, luisants, sanguinolents, chiffonnés, du ventre d'Alice, il avait ressenti pour eux un élan puissant et spontané qu'ils n'avaient jamais éprouvé pour leur mère. Puis, les années passant, accaparé, voire obsédé par le projet de l'Arche du Feu de Dieu, il avait négligé de cultiver son amour paternel. Il avait laissé la friche habituelle recouvrir ses sentiments. Il s'était souvent surpris à éprouver du désintérêt, voire de l'indifférence. Oui, de l'indifférence, pour la chair de sa chair. Le gouffre qui le séparait d'eux lui paraissait désormais infranchissable. Il se demandait de temps à autre si l'emplacement du feu de Dieu avait été bien choisi, si les bâtiments avaient résisté aux secousses. La perspective de la disparition des siens ne lui causait qu'une peine légère, aussitôt ensevelie par une multitude d'autres pensées, d'autres considérations. Surya restait assise des heures sans bouger, les yeux levés sur Franks, comme un chiot sollicitant inlassablement le regard de son maître. Elle ne bougeait que pour manger, boire et faire ses besoins dans le coin toilette aménagé par les techniciens de l'équipe de tournage. Le soir, elle s'allongeait docilement sur le petit matelas de mousse installé à une dizaine de mètres de la couchette de Franks. Il ne savait pas si elle dormait. Chaque fois qu'il allait vérifier, il la trouvait les yeux grands ouverts. Elle ne manifestait en tout cas jamais le moindre signe de mécontentement ou de fatigue. Elle arborait toujours la même expression, la même absence d'expression plutôt. Elle traversait l'existence avec une impassibilité qu'aucun événement n'était en mesure de fissurer. Autiste. Charline Siboney, elle, ne supportait pas la fillette. Elle la traitait de petite cinglée au visage de démon, de succube, et disait qu'il fallait s'en débarrasser au plus vite avant qu'elle n'ait pompé l'énergie de tout le monde. Franks objectait qu'il avait promis à sa mère mourante de lui trouver une famille d'accueil et un abri sûr. « Les promesses n'ont aucune valeur dans le foutoir géant qu'est devenu le monde. » rétorquait Charline. Tu ne vas tout de même pas t'encombrer d'une bouche inutile alors qu'il n'y a pratiquement plus de ressources. Elle accompagnait ses paroles d'effleurements qui affolaient Franks et l'empêchaient de réfléchir. Elle le rejoignait chaque nuit. Les nuits et les jours étaient marqués par les montres et le vieux réveil mécanique au tic-tac rassurant qu'un perchman avait eu la bonne idée d'emmener avec lui, sur le large matelas en polyester, et il n'avait pas l'envie ni la volonté de la repousser. Avec elle, il découvrait des facettes de l'amour physique qu'il n'avait pas expérimenté avec Alice, peu sensuel au demeurant. Il lui arrivait également de penser qu'il n'était pas lui non plus un amant exceptionnel. Il se sentait happé, aspiré tout entier par Charline. Ses baisers et ses caresses semaient des enchantements sur sa peau. Elle se démenait tant et avec tant d'habileté qu'elle semblait pourvue de mille bouches avides et le laissait, à la fin de leur joute, dans une merveilleuse euphorie qu'Alice ne lui avait jamais offerte. Pendant l'acte, elle poussait des gémissements et des feulements sans se soucier de ceux qui dormaient à côté. Elle le repoussait ensuite avec sécheresse et se tournait de l'autre côté. Elle ne supportait pas le contact de l'homme qu'elle venait de baiser. Cette espèce de glu formée par la sueur et les sécrétions, l'odeur, les mouvements intempestifs, les manifestations de tendresse obscène, les ronflements. Les hommes, ces crétins d'hommes, se comportaient comme des petits garçons cherchant la tiédeur et l'affection de leur mère. Elle n'était pas leur mère. Elle ne leur donnait pas ses seins à téter. Elle avait besoin de tranquillité pour dormir. Il aurait pourtant aimé se serrer contre elle, sentir son corps brûlant contre le sien, poser la main sur sa hanche ou sa poitrine, prolongée par la douceur, la violence étourdissante de leur étreinte. C'était le moment qu'ils préféraient avec Alice, dormir contre elle, leur corps apaisé, emboîté, leurs jambes et leurs odeurs emmêlées. Charline avait proclamé chef de leur groupe l'homme qui avait traversé le pays dévasté et qui était devenu son amant. Le plus étonnant est que les 16 autres regardaient désormais Franks comme le seul être capable de les tirer de ce mauvais pas. Bien que la terre ne fût plus qu'un champ de ruines, l'actrice conservait cette aura, cette autorité que confère la célébrité. Ils avaient commencé à épargner le gazole et réserver le générateur à des tâches essentielles. Puis, sur les conseils de Franks, ils avaient aménagé de façon rudimentaire la champignonnière destinée à leur servir d'habitation pendant plusieurs années. Laura, une script d'une trentaine d'années, avait eu une crise de nerfs en prenant conscience qu'elle ne reverrait sans doute pas le fils de 2 ans qu'elle avait confié à son père, dont elle était séparée depuis 5 mois.
« Finalement, j'ai bien fait de pas avoir de gosse », avait commenté Charline avec une moue de mépris. « Ça vous met dans ces états. »
Ils avaient installé contre les parois des boxes à l'aide des planches et des tissus découverts dans les galeries et les caves environnantes. Les ramifications de la champignonnière s'étendaient sur des centaines de mètres. L'odeur de moisissure était par endroits si âcre qu'on ne pouvait pas l'inhaler plus de quelques minutes. Ils avaient ensuite dressé l'inventaire des réserves de vivres et d'eau, en comptant celle de Franks, et en étaient arrivés à la conclusion qu'en se rationnant au maximum, ils tiendraient au plus une 20aine de jours. Ils devaient donc très rapidement chercher de nouvelles ressources à l'extérieur. De la nourriture et de l'eau, mais aussi des bougies, des lampes, des couvertures, des vêtements, des ustensiles. Les rats, poussés par la faim, s'enhardissaient et rôdaient autour des caisses de vivres, heureusement hermétiques. Ils n'auraient bientôt qu'un seul choix, s'attaquer aux êtres vivants. La nuit, les plus audacieux s'approchaient des dormeurs et ne s'enfuyaient pas quand ils entendaient un bruit ou détectaient un mouvement. Franks proposa de les piéger, de les égorger, de les dépiauter et de conserver leurs carcasses dans l'immense congélateur qu'était la cour intérieure. Charline affirma qu'elle préférait crever de faim plutôt que de bouffer du rat. Quelqu'un lui rétorqua que lorsqu'elle aurait vraiment le ventre vide, elle oublierait ses répulsions et se jetterait comme les autres sur tout ce qui se mangerait. Comme il n'était pas question de les abattre avec un fusil, il y aurait davantage de plomb que de viande à récupérer, ils fabriquèrent un piège à l'aide d'une vieille cage grillagée qu'ils consolidèrent et équipèrent d'une petite porte battante qui ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur. Ils répartirent à l'intérieur plusieurs morceaux de sandwich avariés et placèrent le tout près de l'orifice par lequel les rats avaient l'habitude de passer. Le piège en avait capturé 5 quelques heures plus tard. Gris, énorme, hérissé, prostré. Restait maintenant à les saigner, et personne ne se déclara volontaire. Il revint encore à Franks d'imaginer un stratagème pour les tuer sans risquer de morsure ou de griffure. Il lia solidement, à l'aide d'un fil de fer, le manche d'un couteau à une hampe de bois qu'il glissa par une petite ouverture pratiquée dans le haut de la cage. Et à la lueur d'une lampe, planta d'un coup sec la lame sur une première boule de poil ébouriffé. Le rat se débattit furieusement, griffa le grillage avec une telle violence que les mailles métalliques parurent sur le point de céder. Luttant contre son propre écœurement, Franks maintint fermement le fer enfoncé dans le flanc de l'animal jusqu'à ce qu'il cesse de bouger.
« Nom de Dieu, c'est une putain de vraie boucherie !» s'exclama Boris, le premier assistant.
Franks croisa le regard à la fois horrifié et fasciné de Charline et s'essuya le front d'un revers de manche avant de retirer la lame du cadavre du rat.
« On n'a pas le choix, » souffla-t-il. « Si on ne les tue pas, de toute façon, ce sont eux qui nous boufferont.
« Donne-moi ça, mec, je m'occupe des autres, ça me dérange pas. »
Un homme se détacha du groupe, s'approcha de Franks et lui prit d'autorité la hampe des mains. Pas très grand, plutôt frêle, un visage encore enrobé des rondeurs de l'adolescence, une barbe clairsemée, un bonnet noir et un ample sweatshirt de rappeur passé par-dessus d'autres couches de vêtements. Des yeux ronds et vifs. Max, le cadreur stagiaire.
« T'es sûr de ce que tu fais, Max ?» demanda Boris.
Max ne répondit pas. Il plongea la lame avec une telle rapidité à l'intérieur de la cage que le rat visé, frappé au cou, n'eut pas le temps de couiner ni de se débattre. Il tua les 3 autres avec la même efficacité froide, sans marquer la moindre hésitation. Puis il ouvrit la cage et en extirpa les 5 cadavres sanguinolents qu'il aligna devant la petite porte.
« Je les dépiote. Il y aura juste à les porter au froid là-haut. »
Max devint à partir de ce jour le boucher officiel du groupe. Les rongeurs se laissaient prendre avec une belle régularité, jusqu'à 10 par nuit, trop affamés pour éventer le piège.
Le cadreur stagiaire se chargeait de les exécuter, de les dépiauter et de les vider, sans état d'âme. Une odeur aigre de sang et de viscères dominait par instants celle des moisissures dans l'air confiné de la champignonnière. Quelqu'un se chargeait ensuite d'emporter les dépouilles préparées dans la cour intérieure, toujours baignées de froid et d'obscurité, et de les entreposer, à l'abri des éventuels rôdeurs, dans un vieux buffet de cuisine blanchi par le givre. Là-haut, les pluies de cendres s'étaient transformées en une brume épaisse que le vent peinait à disperser.
« D'accord. En admettant qu'on mange ces sales bestioles, on tiendra quand même pas très longtemps. »
Charline s'était retournée vers Franks pour lui murmurer ces quelques mots. Les autres dormaient. Une cacophonie de ronflements et de sifflements s'élevait sous les voûtes de la champignonnière. Des rats pris au piège s'agitaient et couinaient à l'intérieur de la cage grillagée. Elle avait raison. Les réserves de viande leur assureraient une autonomie de quelques semaines, pas davantage. Ils devaient donc se mettre en quête d'un supermarché proche où ils pourraient se réapprovisionner. Le bourg de Buc ne disposait probablement pas de grande surface, mais les centres commerciaux ne manquaient pas, entre Vélizy et Guyancourt. Avec un bon équipement, leur chance n'était pas négligeable de revenir vivant de l'expédition.
« Demain, je tenterai une sortie avec un ou deux gars. »
Franks regretta ses paroles sitôt après les avoir prononcées. Il avait pris goût au confort relatif de la champignonnière, et son corps se révoltait à l'idée d'affronter de nouveau le froid, les ténèbres, les pluies de cendres. Mais c'étaient les mots que Charline désirait entendre, et il ne voulait pas prendre le risque de lui déplaire. Elle le remercia en se rapprochant de lui et en lui offrant avec fougue ce qu'elle lui avait refusé quelques instants plus tôt. Franks et ses deux compagnons, Boris, le premier assistant, Joker, l'accessoiriste, ainsi nommé parce qu'il ressemblait au Joker de Batman 4, luttaient contre les rafales cinglantes qui balayaient le paysage gris et noir. Ils se suivaient de très près pour ne pas se perdre de vue. De temps à autre, le vent soulevait des gerbes de cendres qui se fracassaient sur des obstacles invisibles ou les murs de brume. Impossible de se repérer dans une telle poix. Ils s'étaient équipés avant de sortir. Plusieurs couches de vêtements, lunettes, trois paires de gants et de chaussettes enfilées les unes sur les autres, pans de tissu noués sur le nez et la bouche, sac à dos, son fusil et la cartouchière pour Franks, des couteaux pour les deux autres. Ils n'avaient croisé aucune créature vivante depuis leur départ. Boris avait proposé une direction au sortir de la cour intérieure, croyant se souvenir que Vélizy se trouvait quelque part par là. Et les autres, incapables de s'orienter, avaient suivi sa suggestion. Ils ne parlaient pas, marchaient, épuisaient leur énergie. La gravité terrestre semblait avoir subitement augmenté. Le froid se faufilait entre les étoffes. Ils évitaient de prendre de profondes inspirations pour ne pas inhaler des coulées de glace. Franks regrettait d'avoir laissé Souria dans la champignonnière. Même si elle n'avait esquissé aucun geste pour le retenir, il avait cru déceler de la tristesse dans ses yeux noirs. Il l'avait confiée à deux femmes de l'équipe, Carole, la maquilleuse, et Laura, la script. Mais il craignait que Charline ne mette à profit son absence pour se débarrasser de la fillette. Les autres, qui éprouvaient pour l'actrice un mélange de fascination et d'exécration, risquaient de se laisser influencer. Franks jugeait étrange qu'elle continuât à exercer une telle séduction dans un monde où les anciennes hiérarchies s'étaient estompées au profit d'une seule, les besoins fondamentaux. Manger, boire, s'abriter. Lui-même avait le plus grand mal à sortir de son attraction. Il n'était pas amoureux d'elle. Il ramassait seulement les éclats d'un rêve brisé. Il prenait une revanche sur ses années d'anonymat. Lui, l'homme qui avait eu raison contre tous et que personne n'avait écouté. Frappé de la malédiction de Cassandre. Il lui plaisait, il devait l'admettre, de se vautrer dans l'intimité d'une célébrité. Il avait l'impression d'être enfin reconnu à sa juste valeur. Adulé. Et même s'il ne devait sa bonne fortune qu'au grand bouleversement, il ne boudait pas son plaisir. Il jouissait. Oui, il jouissait des attentions et du corps de Charline Siboni, l'actrice qui avait tourné avec les plus grands cinéastes et partagé la couche des hommes les plus prestigieux. Ses pensées, puériles évidemment, prenaient toute la place et rejetaient les autres, Alice, les enfants, le feu de Dieu, Jim le parasite, au second plan. Seule Souria parvenait à surnager, comme un roc au milieu de flots agités. Il ne comprenait pas pourquoi cette gosse, une parfaite étrangère, l'habitait à ce point. À plusieurs reprises, il faillit rebrousser chemin pour revenir près d'elle et la mettre hors de portée de Charline. Il se reprochait amèrement de l'avoir abandonnée, d'avoir trahi la promesse arrachée par sa mère. Il tentait alors de se persuader qu'elle était entre de bonnes mains, que Carole et Laura empêcheraient l'actrice de lui faire du mal, qu'on ne pouvait sacrifier une enfant comme on éventrait un rat. Mais le cataclysme modifiait les comportements. Le jour ne se levait plus, les frontières dessinées par les religions et les lois se déplaçaient. La raison s'effaçait devant l'instinct. La vie et la mort se confondaient.
Hé !
Franks se retourna. Les deux autres s'étaient arrêtés quelques mètres en arrière. Il les discernait à peine dans la brume. Il retourna près d'eux.
« Qu'est-ce qui se passe ?»«
Joker veut plus avancer, » dit Boris.
« S'il refuse d'avancer, il est mort. »«
Dis-lui, toi, moi il m'écoute pas. »
Franks entrevit les yeux de Joker au travers des verres pourtant voilés des lunettes. La mort s'y était déjà installée.
Hey, « Hé, Joker, on peut pas t'attendre ou on mourra tous les trois, et moi j'ai pas l'intention de crever ici. »
Joker tremblait de tous ses membres. Franks lui secoua l'épaule.
« Te laisse pas emporter par le froid, bon Dieu !»
Joker fixa Franks d'un air désespéré, puis subitement, il se laissa tomber sur le tapis de neige.
« Qu'est-ce qu'on fait ?»
glapit Boris.
« On n'a pas le choix. On continue, ou on tardera pas à le rejoindre. On va tout de même pas le laisser claquer ici, merde !»«
Même si t'as le courage et la force de le porter, il finira par mourir. Il a plus la force de lutter. »
Il faut qu'on reparte, Boris, tout de suite, ou on se laissera à notre tour engourdir.
Boris eut un geste de rage, hocha la tête et se remit à marcher sans jeter un dernier regard à leur compagnon allongé sur le dos. Le pan de tissu et les lunettes avaient glissé dans la chute de Joker et dévoilaient son visage blême. Franks envia ses traits détendus.